On va passer à un dialogue tout d'abord entre Marielle Massé et Gisèle Sapiro, ensuite avec Jacques et puis toutes les personnes présentes. Donc sur le Proust de Bourdieu, je vous représente quand même rapidement et Marielle et Gisèle. Marielle qui est directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du CRAL. Vous savez que sa recherche a porté sur le genre de l'essai au XXe siècle, sur la mémoire littéraire et ses enjeux, sur les conduites de lecture et l'expérience esthétique, et ce sur quoi tu travailles beaucoup en ce moment, le renouveau de la pensée du style, élargi de l'art, de l'art à la vie quotidienne et à ses formes, ce qui va être peut-être intéressant tout particulièrement aujourd'hui. Alors ces ouvrages, vous les connaissez tous, hein, le genre littéraire, le temps de l'essai qui a été fondamental pour nous, et puis façon de lire, manière d'être, où elle revient notamment sur la lecture chez Proust. Ensuite, Gisèle, hein, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de sociologie des intellectuels, de la littérature et de la traduction. Alors, elle est l'auteur de nombreux livres. Je vais citer quand même La guerre des écrivains, 1940-1953, fondamental, hein, qui a fait date. La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France. La sociologie de la littérature. Gisèle a aussi co-dirigé ou dirigé de très nombreux collectifs. Je vais peut-être juste mentionner ici Pierre Bourdieu, sociologue, en 2004. Hein, et puis ça me permet de faire un enchaînement subtil sur la table ronde. Alors c'est Marielle qui va prendre la parole pour commencer.
Bah oui, bizarrement, puisque moi je ne suis spécialiste ni de Proust ni de Bourdieu. Mais donc comme ça, ça va délier les langues, puisque c'est une sorte de moment récréatif, même s'il n'y a plus de rôle que le Proust de Bourdieu qu'on vous propose. Puisqu'on a, Gisèle et moi, on a décidé de faire de cette petite exploration de la mobilisation de Proust par Bourdieu un moment un petit peu plus informel. Donc on vous a préparé un exemplier. En fait, ce sont toutes les occurrences exhaustives de Proust dans le travail de Bourdieu. S'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a pas de sujet de maîtrise ou de master, on dit maintenant, ça y est, c'est bon. C'est, d'ici la fin de l'année, il peut faire quelque chose. Et on va vous présenter quelques-unes des réflexions que ces occurrences nous inspirent. Quelques remarques, donc un petit peu disparates, et chacune depuis son ancrage disciplinaire. Moi, j'ai été frappée par la très grande présence de Proust chez Bourdieu. Il est très présent, mais de façon toujours très brève, rarement comme objet véritablement d'une sociologie de la littérature, rarement comme objet, donc, sauf au sujet du Contre Sainte-Beuve, qui apparaît comme un cas exemplaire de revendication de l'autonomie de la littérature. Mais il me semble que c'est le seul cas où Proust soit vraiment saisi dans une réflexion qui soit une réflexion sociologique sur la production de la valeur littéraire. Tous les aspects de l'œuvre proustienne sont évoqués. La recherche, les pastiches, les articles, la correspondance, notamment avec Rivière, et le Contre Sainte-Beuve. Mais donc Proust n'est pas véritablement pris comme l'objet de cette sociologie de la littérature. Il aurait pu tout à fait l'être, hein, et même de façon encore plus massive et évidente que ceux qui ont pu être étudiés de cette façon-là par Bourdieu, notamment Baudelaire. Il est plus surprenant encore d'étudier Baudelaire dans une sociologie de la production de la valeur littéraire qu'il ne l'aurait peut-être été d'étudier Proust et le refus de Gallimard, etc., etc. En fait, celui qui est présent, c'est une espèce de Proust revenant, de Proust cité, de Proust toujours présent sous le mode du « comme l'a dit Proust » ou « dans le langage de Proust » ou « nul n'a aussi bien vu que Proust », etc. C'est un Proust revenant, c'est un Proust qui fait de la littérature ce qu'on garde à l'esprit. Et c'est une expression qui est présente dans la première citation qui apparaît... La première citation proustienne qui apparaît dans la distinction. On lirait sans doute moins aveuglément, etc., si l'on avait à l'esprit l'analyse que fait Proust. Et c'est précisément comme ça que Proust est présent dans le travail de Bourdieu. Il l'a à l'esprit. C'est un comparant, c'est l'auteur d'un codex de phrases, comme disait Barthes. de phrases qui viennent phraser des circonstances de la vie, disait Barthes. À chaque moment de la vie, il y a un passage proustien pour venir préciser ce que vous êtes en train de vivre sans tout à fait bien le percevoir ou bien le phraser. Et c'est comme ça, en tout cas qu'à moi, il apparaît dans le travail de Bourdieu. Donc sur le mode du citable. Il est absent de l'esquisse pour une auto-analyse. Ça m'a embêté parce que je m'étais dit, s'il était vraiment comme ce qu'on a sur le bout de la langue dans l'œuvre de Proust, pourquoi est-ce que son nom n'apparaît même pas dans l'esquisse pour une auto-analyse? Mais il est manifestement sur le bout de la langue et de façon très, là encore, très légère, très brève, mais très régulière dans le travail de Bourdieu. Deuxième aspect, Proust, du point de vue qui nous intéresse, est effectivement mobilisé de façon très explicite par Bourdieu comme un micro-sociologue, sociologue de la distinction, dès la reproduction. De même que, comme le remarque Marcel Proust, on découvre au téléphone les inflexions d'une voix qu'on ne distingue pas tant qu'elle n'est pas dissociée, etc., etc. Je pense que Bourdieu a été alerté dans cette phrase proustienne par le verbe « distinguer » et c'est comme ça qu'il sera mobilisé dans le travail sur la distinction, donc comme un ethnologue de la distinction, comme un sociologue de la noblesse culturelle, notamment d'une réflexion sur le jeu des allusions lettrées, la pratique distinguée de la lecture. Donc Bourdieu alerté par cette acuité d'un Proust micro-sociologue des phénomènes de distinction. Et fondamentalement, de ce point de vue, il me semble, je ne sais pas si Gisèle sera d'accord, que ce que la recherche nourrit chez Bourdieu, c'est une pensée de l'habitus dans sa dimension génétique, c'est-à-dire vraiment de l'incorporation des manières. Et c'est pour ça que le pastiche intéresse Bourdieu. Et il accorde beaucoup d'importance à la pratique du pastiche comme, disons, preuve de la compréhension d'une incorporation d'habitus. Donc voilà, il y a une sorte d'intérêt massif de la recherche du temps perdu pour ce caractère, disons, de dévoilement d'une incorporation des habitus. Donc évidemment, c'est le monde du salon, et le terme de monde est très précieux chez Bourdieu, comme monde social qui est mobilisé par Bourdieu. Donc c'est très manifeste, notamment dans le sens pratique, hein, le monde des salons et du snobisme, qui est vraiment, c'est le Proust le plus évident sous la plume de Bourdieu, c'est celui qui apparaît avec le plus de simplicité, disons. Bourdieu se paie même le luxe de considérer qu'il n'est pas assez sociologue, ou qu'il n'est pas assez ethnologue dans ce travail-là. Je vous lis juste une petite citation du Sens pratique. Même dans le cas limite du monde, lieu par excellence des jeux de bourse symboliques, la valeur des individus et des groupes ne dépend pas aussi exclusivement des stratégies mondaines que ne le suggère Proust lorsqu'il écrit, vient une citation proustienne, et Bourdieu en quelque sorte fait la leçon à Proust sur un manque de justesse dans la qualification précise de ce fonctionnement des interactions dans le monde et de ce qui fait un monde social. Donc voilà, comme le montre Barbara, justement, un micro-sociologue de la distinction, et ce, dès la reproduction. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est en fait que Proust ne soit pas mobilisé par Bourdieu de la façon dont il peut parler des autres. Enfin, il y a une exception proustienne dans le corpus des citations qu'on a vues, qui est très frappante. Il ne fait pas intervenir Proust de la même façon qu'il fait intervenir d'autres écrivains. Je disais tout à l'heure, ça n'est pas un objet d'étude, comme l'ont été Flaubert essentiellement, et puis Baudelaire, par exemple, un titre plus modeste. Ça n'est pas non plus un modèle éthique ou cognitif, un modèle de ce que c'est que comprendre, comme a pu l'être Ponge, que Bourdieu a beaucoup aimé, qu'il a étudié dans un texte tout à fait singulier, exorbitant et lui-même très poétique, qui s'intitule « Nécessité », ER, et où Bourdieu disons, conçoit le parti pris des choses et la disposition à la fois morale, attentionnelle et frastique du parti pris des choses comme un modèle de ce que c'est que comprendre. Et comprendre, dit-il avec le vocabulaire de Ponge, c'est nécessiter le réel, c'est-à-dire l'affronter, le qualifier dans sa justesse et l'affronter jusqu'à ne pas l'aimer et ne pas le justifier. Donc être à la fois frontalement placé devant le réel et en même temps accepter de ne pas l'aimer, de le vouloir autre. Et il y a aussi un tout petit texte qui a été très bien étudié par Jérôme David sur Apollinaire, sur Automne malade, qui parle un petit peu de la même chose, de ce que c'est que comprendre. Donc ici, des poètes ont été modèles dans une façon de mobiliser la littérature comme un modèle cognitif et éthique. Et puis surtout, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que Proust n'est pas présent au titre d'un modèle de réalisme temporel. C'est-à-dire que Bourdieu a des réflexions passionnantes sur Faulkner ou sur Joyce ou sur Woolf, alors que je vous ai donné notamment dans l'entretien, dans un livre d'entretien avec Loïc Vacan, où il considère que que la leçon qu'il a à tirer, lui, des romanciers modernes, c'est une leçon de réalisme par formalisme. C'est-à-dire que il s'intéresse à la construction même, enfin discontinue, au montage un petit peu. Enfin, j'ai été très frappée par ce que disait Martin tout à l'heure à propos de Lévi-Strauss. Il s'intéresse donc au type de montage temporel et de perspectivisme du récit de Faulkner ou de Joyce ou de Woolf. Et il y a une très belle description justement où il dit un ami d'école est venu me parler de ses problèmes. Je n'ai d'abord rien compris à son récit jusqu'à ce que je comprenne qu'il me faisait un récit faulknerien. Et où là, j'ai compris ce qu'il y avait d'anthropologiquement juste, enfin la vérité anthropologique des recherches narratives ou des expérimentations narratives du roman. Et là, moi, je me disais, mais bingo, c'est là que Proust va être vraiment présent chez Bourdieu. Et je me suis même payé le luxe d'anticiper là-dessus en répondant en ce sens dans un entretien qu'on a fait avec Anne, en disant le Proust qui intéresse Bourdieu, c'est le Proust formaliste, c'est le Proust narratologue. Eh bien non, ça n'apparaît pas. Donc il y a ce retrait devant la leçon de temporalité si complexe de Proust. Et je trouve que là, la difficulté même du propos... du propos de Lévi-Strauss était intéressante, parce qu'il me semble que cette leçon de temporalité proustienne, elle n'a pas été très active ou très présente dans le travail de Bourdieu, sauf peut-être dans l'illusion biographique, quand il parle de l'étrange usage que Proust, c'est l'ensemble numéro 6, page 3. L'usage inhabituel que Proust fait du nom propre précédé de l'article défini, le Swan de Buckingham Palace, l'Albertine d'alors, l'Albertine caoutchoutée des jours de pluie, et où il voit justement, disons, une trouvaille syntaxique pour engainer à la fois la complexité d'un sujet fait à la fois de multiplicité et de permanence. Donc là, il y a quelque chose qui, dans la trouvaille phrastique elle-même, a manifestement beaucoup frappé Bourdieu. Mais peut-être que cette sociologie temporalisée, attentive aux surprises proustiennes, attentive aux instants proustiens, elle est encore à penser. Dernière chose, il y a une citation de Proust qui revient trois fois. Elle est très belle et elle est très douloureuse. Elle revient trois fois dans la distinction et deux fois dans les règles de l'art. Il faut que je retrouve. C'est dans le post-scriptum de la distinction, donc dans notre page 2, sous l'appel page 565. Post-scriptum, élément pour une critique vulgaire des critiques pures. Cette recherche, dit Bourdieu, demandait avant tout qu'on sût renoncer par une sorte d'amnésie délibérée à tout le corpus de discours cultivé sur la culture, et par là non seulement au profit que procure l'exhibition des signes de reconnaissance, et qui rappelle au moins à travers les coups, et qui se rappelle pardon, au moins à travers les coups entraînés par la seule omission, mais aussi au profit les plus intimes de la délectation lettrée, ce qu'évoque Proust lorsqu'il indique ce que lui a coûté la vision lucide des plaisirs de lecture, C'est avec mes plus chères impressions esthétiques que j'ai voulu lutter ici, tâchant de pousser jusqu'à ses dernières et plus cruelles limites la sincérité intellectuelle. Et c'est une citation qui manifestement lui importait, puisqu'elle revient deux fois dans les règles de l'art, lorsqu'il dit que ceux qu'il a pu blesser dans sa façon d'étudier la littérature auraient dû se souvenir de cette phrase de Proust et se souvenir de ce qu'il exposait lui-même, son sacrifice, dit donc sa propre façon d'avoir sacrifié ses impressions esthétiques les plus chères. Et puis c'est également en exergue du dernier chapitre des règles de l'art, la genèse historique de l'esthétique pure. Voilà, une citation préférée qui sans doute expose quelque chose d'un rapport au moins complexe à la littérature, avec cette sorte d'effet de deuil qu'il faut de certaines impressions esthétiques, et qui, je termine juste là-dessus, ce qui m'a frappée aussi, c'est l'absence totale d'ironie qui marque la présence de Proust dans le discours de Bourdieu, absence totale d'ironie sur le monde proustien. Voilà, il y a une présence revenante, familière, fondamentale, non ironique, sans distance, ordinairement sans distance, de Proust chez Bourdieu qui tranche avec d'autres formes de présence littéraire, où il n'est pas tellement question d'un rapport à la valeur, mais plutôt d'un rapport à la vérité. Un rapport à la littérature, non pas comme valeur, mais un rapport à la littérature comme vérité. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser, devant ces retours de citations comme ça, à ce que dit Barthes, de ce que Proust représente pour lui. Il dit: Proust, c'est mon œuvre de référence, ça n'est pas ce que j'appelle, c'est ce qui me vient. Et on a vraiment ce sentiment-là avec le Proust de Bourdieu. Voilà. Mais je sais pas si tu l'as toi aussi.
Bien, d'abord, je voudrais remercier Marielle de m'avoir associée à cet exercice, parce que je ne suis pas proustienne, et donc je suis très intéressée par tout ce que j'entends aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt évidemment travaillé sur Flaubert. Je me suis intéressée aussi à la manière dont Flaubert émerge dans l'œuvre de Bourdieu, d'abord comme à titre d'illustration, puis il devient vraiment un objet à partir du milieu des années 70, que, comme l'a dit Marielle, Proust ne deviendra jamais, parce que je pense qu'il y avait un programme qui était focalisé sur le 19e, sur ce moment d'émergence de l'autonomie que Bourdieu avait repéré avant de prendre Flaubert comme objet. Hein. Donc il y a une cohérence dans le choix des objets par rapport à cette préoccupation, plus le fait que Flaubert illustre, va lui servir à travailler des problèmes théoriques comme le rapport entre classe, champ, enfin des choses comme ça. Mais là, je ne vais pas développer, j'ai peu de temps. En fait, on peut dire que Proust a une fonction plus illustrative chez Bourdieu. Les citations viennent exemplifier, étayer un argument. Et donc j'ai essayé de regrouper un peu les citations pour voir les thèses que Proust vient illustrer. Alors un premier ensemble porte sur la phénoménologie de la perception. Proust vient à l'appui de l'idée du caractère construit de la perception. Bourdieu s'inscrit dans la tradition néo-kantienne qui retrouve chez Cassirer, mais aussi de l'approche phénoménologique qui met l'accent sur la relation entre le sujet et l'objet de la perception. Dans Un art moyen, en 65, c'est la première citation, il l'évoque contre la croyance dans le réalisme de la photographie, et donc les citations de Proust montrent comment la perspective adoptée modifie la vision ordinaire qu'on peut avoir de paysages urbains familiers, et Bourdieu parle à ce propos de pouvoir de déconcertement pour indiquer l'effet qu'on appellerait aujourd'hui de défamiliarisation peut-être. Voilà, donc je vais juste dire le début de la citation, et Proust donne une très belle illustration des pouvoirs de déconcertement que recèle la photographie et dont la pratique commune se prive. Citation: les dernières applications de la photographie qui couchent au pied d'une cathédrale toutes les maisons qui nous parurent si souvent de près presque aussi hautes que les tours sont successivement manœuvrées comme un régiment par fil en ordre dispersé, en masse serrée, les mêmes monuments rapprochent l'une contre l'autre les deux colonnes de la piazzetta tout à l'heure si distantes, éloignant l'approche et dans un fond pâle et dégradé, réussissent à faire tenir un horizon immense sous l'arche d'un pont. Voilà. Et suit une autre longue citation de Proust sur les photographies magnifiques qui nous étonnent, nous font sortir de nos habitudes. Et puis dans la reproduction, c'est une citation que Marielle a évoquée, il est mentionné pour expliquer qu'il faudrait décomposer l'analyse du jugement professoral afin de dégager ce qu'il doit aux marques de l'appartenance sociale, exis corporelle, tenue, manière de se vêtir. Hein. Donc c'est cette citation, de même que, comme le remarque Marcel Proust, on découvre au téléphone les inflexions d'une voix qu'on ne distingue pas tant qu'elle n'est pas dissociée, tant qu'elle n'est pas dissociée d'un visage où on objective son expression. De même, la décomposition expérimentale du jugement syncrétique de l'examinateur pourrait seule révéler tout ce qu'un jugement formulé en situation d'examen doit au système des marques sociales qui constituent le fondement objectif du sentiment de la présence ou de l'insignifiance du candidat. Et à cet ensemble, on pourrait rattacher la citation que Marielle a lue aussi dans l'illusion biographique à propos des noms propres comme désignateurs rigides de l'identité, hein, selon, il reprend la thèse de Kripke, de Saul Kripke, sur les noms propres comme désignateurs rigides, qui unifient des aspects différents de la personnalité d'un individu ou des moments différents de sa vie. Et à travers donc des exemples de Proust qu'il cite, il montre comment Proust arrive à justement à tenir à la fois cette identité par le nom propre et la variation par le swan du Buckingham Palace, l'Albertine d'alors. Et donc là, c'est aussi une introduction de la temporalité, comme tu disais, puisque ça rapproche dans le temps deux états différents de la personne. Parfois même pas reconnaissable. Et en fait, cet article, il l'écrit à un moment où il y a une sorte de vogue en sociologie, de retour enfin, c'est pas retour, c'est émergence des intérêts pour les récits de vie, en fait. Et donc, il utilise la littérature pour montrer que, notamment le nouveau roman, comment la littérature déconstruit justement la cohérence des vies construites par les récits biographiques. C'est donc la citation numéro 6. Hein. Voilà. Alors, donc ça c'était le premier ensemble, phénoménologie. Un deuxième ensemble concerne l'habitus, comme le présentait Jacques Dubois, d'abord dans le sens pratique, c'est donc la citation, c'est 4, page 117, donc dans le sens pratique, il y a la question de l'incorporation de l'habitus. Par corps. Hein. Donc c'est à propos des injonctions à se tenir bien. Bourdieu écrit « On pourrait, déformant le mot de Proust, dire que les jambes, les bras sont pleins d'impératifs engourdis. » Et puis il y a une note dans la distinction, donc c'est 3, page 74, c'est en bas de la page 3, en bas de la page, pardon,
la première page.
Bourdieu écrit que Proust, je cite, « nommait jamais de rapporter les manières à la manière d'acquérir. » Et c'est un des rares endroits où il introduit justement, comme le disait Marielle, la question de la temporalité en lien avec Proust, puisque en plus la citation là c'est vraiment sur un raccourci de formation. Elle m'agaçait, ce qui était d'autant plus injuste qu'elle ne parlait pas ainsi pour faire mieux croire qu'elle était intime de Mémé, mais à cause d'une instruction trop rapide qui lui faisait nommer ses nobles seigneurs selon ce qu'elle croyait la coutume du pays. Elle avait fait ses classes en quelques mois et n'avait pu suivre la filière. L'habitus ne se manifeste pas seulement à travers l'exis corporel, mais dans le rapport aux pratiques culturelles ou intellectuelles, ce qui invite à nuancer l'approche positiviste des enquêtes sur les pratiques culturelles. Et Bourdieu cite au début de la distinction, donc ça c'est la citation 3, donc page 1, 3, donc c'est la distinction page 19. Il cite le long passage de Proust sur la lecture des journaux pour illustrer le détachement avec lequel un esthète lit le journal, qu'il oppose à l'indignation ou à l'enthousiasme d'un militant, hein, par exemple. Je ne vais pas lire la citation parce que c'est un peu long. Et puis, Marielle a mentionné le pastiche, auquel il reviendra beaucoup dans Manet. En haut de la page 2, donc page 193 de la distinction, voilà, donc il donne une citation de Jacques Rivière pour évoquer dans la correspondance avec Proust, voilà, comment le pastiche, c'est vraiment une forme d'incorporation. Hein. Le pastiche vrai dont Proust donne l'exemple reproduit non les traits les plus marquants d'un style à la façon de la parodie ou de la caricature, mais l'habitus, ce que Jacques Rivière appelle le foyer de l'activité mentale, et s'engendre les discours originels. Alors un troisième ensemble, et c'est le plus important enfin, en nombre de citations, concerne l'économie des échanges symboliques, que Bourdieu développe à partir de l'esquisse d'une théorie de la pratique en 1972, mais dans l'esquisse, Proust n'est pas cité, et ce n'est que dans le sens pratique que Proust apparaît pour illustrer, à travers l'exemple des salons, les luttes de classement et de hiérarchie symbolique et les bourses de la valeur symbolique des uns et des autres. Là aussi, la dimension phénoménologique joue un rôle très important. Donc d'abord, il y a le sens pratique, c'est 4 pour les pages 236-237 du sens pratique. Je cite « Le monde des salons et du snobisme tel que le décrit Proust offre une belle illustration de ces luttes par lesquelles les individus ou les groupes s'efforcent de modifier à leur avantage l'ordre global des préférences résultant de l'ensemble des jugements qui se confrontent et cumulent continuellement sur le marché des valeurs symboliques. Le prestige d'un salon ou d'un club dépend de la rigueur de ses exclusives. On ne peut admettre une personne peu considérée sans perdre en considération et de la qualité des personnes reçues qui se mesurent elles-mêmes à la qualité des salons qui les reçoivent. Cependant, Bourdieu rappelle que le capital symbolique ne tient pas seulement aux interactions par lesquelles les individus affirment leur rang dans la hiérarchie sociale, mais aussi aux avoirs matériels et aux titres, titres de noblesse, titres scolaires, qui ont une valeur symbolique dans une certaine configuration sociale, ce qu'il appelle donc la physique sociale. Et c'est la citation lue par Marielle sur le fait que même dans le cas limite du monde, à la suite de la précédente, donc le sens pratique, page 241-42, même dans le cas limite du monde, lieu par excellence des jeux de bourse symbolique, la valeur des individus et des groupes ne dépend pas aussi exclusivement des stratégies mondaines que ne le suggère Proust lorsqu'il écrit « Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres ». Le capital symbolique de ceux qui dominent le monde, Charlus, Bergotte ou la duchesse de Guermantes, suppose autre chose que les dédains ou les refus, les froideurs et les empressements, les signes de reconnaissance ou les témoignages de discrédit, les marques de respect ou de mépris, bref, tout le jeu des jugements croisés. Il est la forme exaltée que revêtent des réalités aussi platement objectives que celles qu'enregistre la physique sociale, château ou terre, titre de propriété, de noblesse ou d'université, lorsqu'elles sont transfigurées par la perception enchantée, mystifiée, complice, qui définit en propre le snobisme ou, à un autre niveau, la prétention petite bourgeoise. Néanmoins, dans la distinction, et ça c'est la page 70 de la distinction, Bourdieu rappelle que c'est la manière d'user des biens symboliques qui constitue un des marqueurs privilégiés de la classe en même temps que l'instrument par excellence des stratégies de distinction, c'est-à-dire, dans le langage de Proust, de l'art infiniment varié de marquer les distances. Hein, on l'a déjà cité. Proust est également cité à propos des jeux d'allusion lettrés, Marielle l'a évoqué, comme manière de se distinguer et d'afficher sa culture sans en avoir l'air, comme une forme de snobisme aussi. Hein, donc dans page 1, la citation 3 de la distinction, page 55, ce jeu des allusions lettrées est au principe même de l'idolâtrie dont parle Proust et qui conduit à trouver belle la draperie de la comédienne ou la robe de la femme du monde, non parce que l'étoffe est belle, mais parce qu'elle est l'étoffe peinte par Moreau ou décrite par Balzac. Donc ça c'est dans Pastiche et Mélange. Hein. Et on peut rattacher à ces luttes symboliques les citations tirées d'Homo Academicus et de la noblesse d'État. Donc dans la noblesse d'État, donc c'est 7... quelle page, mais page 284 de la noblesse d'État, à propos des luttes de concurrence entre grandes écoles et des stratégies de maintien de leur capital symbolique face à la montée de l'ENA, il dit « On est ici dans la logique du capital symbolique où il s'agit de faire voir et de faire croire, de faire connaître et de reconnaître celle des mariages dans les sociétés d'honneur où une demande refusée fixe irrévocablement la hiérarchie entre deux groupes ou celle des salons dont Proust s'est fait l'ethnographe et qui exige la même prudence dans les investissements et les négociations que la gestion d'un portefeuille boursier. » Et puis dans Homo Academicus, c'est donc la citation 5, donc Homo Academicus, page 98, « Les échanges symboliques sont illustrés concrètement à travers le jeu de la recomposition des alliances. D'abord, il y a l'exemple, c'est la citation en exergue des élections à l'Académie qui montre le poids des réseaux et des échanges de services. » c'est la citation « Il ne faut surtout pas renoncer à l'Académie. Je déjeune précisément demain en 15 pour aller ensuite avec lui à une séance importante chez Leroy Beaulieu, sans lequel on ne peut faire une élection. J'avais déjà laissé tomber devant lui votre nom, qu'il connaît naturellement à merveille. Il avait émis certaines objections, mais il se trouve qu'il a besoin de l'appui de mon groupe pour l'élection prochaine et j'ai l'intention de revenir à la charge. Je lui dirai très franchement les liens qui nous unissent. Je ne lui cacherai pas que si vous vous présentiez, je demanderai à tous mes amis de voter pour vous, et il sait que j'ai des amis. J'estime que si je parvenais à m'assurer son concours, vos chances deviendraient fort sérieuses. Donc vous voyez les stratégies d'échange de capital social et capital symbolique à la fois. Et puis ensuite, dans Homo Academicus, il y a le moment où il analyse la recomposition des alliances en temps de crise. Et là, il y a deux citations de la recherche qui illustrent comment ces recompositions d'alliances, au moment de crise ou de moment de politisation, comme l'affaire Dreyfus ou comme mai 68, peut entraîner des dissonances sociales. C'est page 3 en haut, la citation donc 5, où il dit « La duchesse de Guermantes faisant remarquer que dans tel salon, si charmant autrefois, on trouve toutes les personnes qu'on a passé sa vie à éviter sous prétexte qu'elles sont contre Dreyfus et d'autres dont on n'a pas idée qui c'est. Voilà. » Il y a l'autre sur Madame Monsieur de Norpois, enfin je passe. La mention dans les méditations pascaliennes, dans le chapitre sur l'être social, le temps et le sens de l'existence, rapproche Proust de Kafka dans la description de l'affrontement entre points de vue, le jeu des catégorisations des individus par la calomnie, la médisance, etc. Donc ça c'est au bas de la page 4, c'est la citation numéro 11. Personne, si l'on excepte Proust dans un registre moins tragique, n'a su évoquer comme Kafka la confrontation de points de vue inconciliables, de jugements particuliers prétendant tous à l'universalité, l'affrontement permanent du soupçon et du démenti, de la médisance et de la louange, de la calomnie et de la réhabilitation. Terrible jeu de société où s'élabore le verdict du monde social, cet inexorable produit du jugement innombrable des autres. Alors le quatrième ensemble concerne le fonctionnement des champs de production culturelle, et Proust vient illustrer quatre aspects de fonctionnement, mais c'est le moins, en fait, enfin c'est presque le moins étayé en fait en citation de Proust, sans doute parce que là il a plutôt Flaubert et Baudelaire en tête. Donc d'abord l'autonomie, hein, Marielle l'a évoqué dans l'avant-propos des règles de l'art, page 10, il cite le contre Sainte-Beuve de... Donc tout ça c'est les citations page 3, le contre Sainte-Beuve de Proust comme l'expression exemplaire de la revendication de l'autonomie. Il y a un point où il rapproche Proust et Flaubert, c'est le rapport entre l'auteur et leur personnage. Et c'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup. D'ailleurs, il va un peu modifier entre le premier article sur Flaubert et puis les règles de l'art, où dans le premier article, il dit c'est pas l'article 75, c'est pas une auto-socio-analyse, puisqu'il y a quand même une différence entre le personnage de Flaubert, entre Frédéric et Flaubert, c'est que entre-temps, c'est que Flaubert, lui, est devenu écrivain, hein, voilà, et qu'il n'est pas resté... Et il dit la même chose pour Proust, ce qu'ils auraient pu être s'ils n'étaient pas investis, s'ils ne s'étaient pas investis. En fait, ces personnages, c'est ce qu'ils auraient pu être s'ils ne s'étaient pas investis corps et âme dans l'écriture. Ces êtres indéterminés et improductifs. Au même moment, Boltanski travaille sur le journal d'Amiel, hein, donc il montre toute la question de l'indétermination sociale et du rapport à la productivité. C'est dans le même numéro, je crois, en 75 ou quasiment. Et donc ces êtres indéterminés qui errent de salon en salon et qui sont trouvés de raison d'être, qui sont, dit Bourdieu, manipulés par les forces du champ. Et donc là, cette citation des règles de l'art, page 153-154, il dit « Ce n'est pas par hasard si Proust n'est pas l'auteur absolument improductif qu'est le narrateur de la recherche. Le Proust écrivain, c'est ce que devient le narrateur dans et par le travail qui produit la recherche et qui le produit comme écrivain. C'est cette rupture libératrice et créatrice du créateur que Flaubert a symbolisé en mettant en scène sous la forme de Frédéric l'impuissance d'un être manipulé par les forces du champ. » Et puis, il y a la pratique du pastiche qu'on a évoqué. En fait, à mesure qu'il avançait dans son cours sur Manet, Bourdieu devenait de plus en plus intéressé par la question du pastiche qui, en fait, lui servait à étayer l'idée selon laquelle les vraies révolutions symboliques ne peuvent se faire que dans une forme de continuité, c'est-à-dire elles doivent être fondées sur une connaissance profonde de l'histoire du champ. Voilà, donc c'est le pastiche, ça prend une proportion très importante à mesure des cours. Et puis, il y a le plaisir, donc dans la question de fonctionnement des champs de production culturelle, le plaisir cultivé de la lecture esthète, qui comprend toutes les références et allusions cachées, perceptibles aux seuls initiés. Hein, donc, c'est aussi ce plaisir du fait que personne d'autre autour, qui ne fait pas partie de ce milieu, ne comprend. Donc ça, c'est page 2, la troisième citation. Il dit « On peut se fier à Proust ». qui n'a cessé de cultiver et d'analyser à la fois le plaisir cultivé, lorsque pour essayer de comprendre et de faire comprendre cette sorte de plaisir idolâtre que l'on prend à lire telle page célèbre, un passage de Stones of Venice de Ruskin, il doit évoquer, outre les propriétés même de l'œuvre, tout le réseau de références croisées qui se tissent autour d'elle, références de l'œuvre aux expériences personnelles qu'elle a accompagnées, favorisées ou même produites chez le lecteur, références de l'expérience personnelle aux œuvres qu'elle a contaminées souterrainement de ses connotations, références enfin de l'expérience de l'œuvre à une expérience antérieure de la même œuvre ou à l'expérience d'autres œuvres, chacune d'elles enrichie de toutes les associations et les résonances qui lui sont attachées. Voilà, et il dit le plaisir cultivé se nourrit de ces références croisées qui se renforcent et se légitiment mutuellement, produisant inséparablement la croyance dans la valeur des œuvres, l'idolâtrie qui est au principe même du plaisir cultivé et le charme inimitable qu'elles exercent objectivement sur tous ceux qui, possesseurs possédés, peuvent entrer dans le jeu. Voilà, je vous laisse dire la fin de la citation. Et puis enfin, Bourdieu mobilise Proust pour évoquer les rapports entre sociologie et littérature. Donc ça renvoie un peu sur quoi Marielle terminait, hein. Faire de la science du sacré, ça revient à commettre un sacrilège, et il y a cette opposition entre lucidité et la lucidité et l'illusio qui entraîne une résistance à l'objectivation, et c'est beaucoup confronté à ça. Il a eu des affrontements aussi avec les littéraires à ce sujet, mais il est persuadé que la lucidité sociologique permet vraiment de comprendre l'acte de création dans sa singularité mieux que les évocations en chanté. Ça, c'est la citation, page 3, en bas de la page, donc dans les règles de l'art, c'est page 260 des règles de l'art. L'intention même de faire la science du sacré a quelque chose de sacrilège et le sentiment de la transgression peut incliner ceux qui se risquent à l'accomplir, à redoubler les blessures qu'il doit inévitablement infliger et s'infliger par des outrances inutiles où s'exprime moins la volonté de faire souffrir le lecteur qu'on a pu le croire que la tentation de tordre le bâton dans l'autre sens pour surmonter les résistances. Et là, c'est la citation qu'a donnée Marielle. Et dans Sur l'État, alors, il cite Proust à propos de l'écriture, dans une démarche réflexive sur le fait que, en écrivant l'article, son article sur le pouvoir symbolique, il n'avait pas conscience qu'il écrivait sur l'État, en fait, qu'il parlait de l'État. Et donc, c'est page 3, la citation numéro 8, il dit « J'invoque une métaphore très prétentieuse très prétentieuse que Proust emploie pour caractériser sa propre manière de faire des romans. Il y a des gens qui sont comme des automobiles dont l'énergie se déploie à l'horizontale et d'autres comme des avions dont l'énergie se déploie à la verticale. Avec mon discours à propos de ce texte, je repasse au-dessus de ces espaces, mais à partir d'un point de vue qui m'était complètement inconnu quand je l'écrivais. J'ai dit en commençant qu'en écrivant sur le pouvoir symbolique, je ne savais pas qu'en fait je parlais de l'État. » Voilà, donc en gros... 5 types d'occurrences, hein, phénoménologie de la perception, habitus et manière d'acquérir les manières, hein, et la dimension corporelle aussi, économie des échanges symboliques. Donc tout ça, c'est ensemble, c'est vraiment sa théorie sociologique qui se nourrit de Proust. Il y a beaucoup moins de citations sur le champ littéraire, au champ de production culturelle, et puis il y a cette question du rapport littérature-sociologie et de l'écriture. Voilà.
On va au pas de course, hein, parce qu'en
fait... Je suis désolée, j'ai trouvé très vite, beaucoup, mais pour retenir
Mais on fait débattre
un petit
peu. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, par exemple, dans les méditations pascaliennes, celui qui revient pour dire le fin mot de l'habitus, c'est pas Proust, c'est Kafka.
Oui.
Et comme si Proust n'avait pas été assez cruel dans sa... ou pas assez brutal, tragique. Ou pas assez tragique dans sa compréhension de ce que c'est que l'habitus. Et donc Kafka revient comme auteur de la colonie pénitentiaire, puisque l'habitus trouve sa bonne comparaison dans le tatouage de la loi sur le corps du prisonnier. Et voilà, donc c'est l'idée que c'est Kafka qui a donné la bonne image, l'image la plus terrible, en fait, de cette cruauté du social. Et... voilà, donc moi j'ai été frappée par
d'où
ça.
L'absence pas... d'ironie, enfin,
oui,
l'absence de...
Oui, par ne pas trouver Proust là où on l'attend. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait la même lecture de cette citation qui revient 3 fois, là. « C'est avec mes plus chères impressions esthétiques que j'ai voulu lutter ici. » Moi, j'y entends, j'ai l'impression que Bourdieu se présente comme celui qui s'est donné en sacrifice, en fait.
Oui, mais c'est
oui,
juste...
Tu es d'accord.
Ah oui, je suis tellement d'accord. Mais simplement, je l'ai dit dans l'autre sens, c'est-à-dire où il a conscience de commettre un sacrilège en faisant la science du sacré. Mais, ça lui fait mal aussi.
C'est-à-dire, c'est pas qu'il sacrifie l'objet sacré, c'est qu'il se sacrifie et il sacrifie son propre plaisir esthétique à ce dessillement. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est puisque moi j'ai eu le sentiment que Proust était surtout présent au titre de celui qui phrase bien, qui donne des l'auteur citable par excellence, celui qui va nous donner la bonne manière de décrire, la bonne qualification, la justesse de diction. C'est frappant de voir Bourdieu si ironique à l'égard de la lecture lettrée, alors que c'est vraiment comme ça que Proust lui vient, par allusion, par association, par allusion. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que j'y voyais justement un rapport à la littérature comme espace de la vérité et pas seulement comme espace de la valeur.
Mais je ne suis pas sûre que ce soit si ironique sur le plaisir cultivé. C'est ambivalent chez Bourdieu, je pense.
Ouais.
Comme toujours, il appartient à ce monde. C'est vrai qu'on peut aussi lire toute son œuvre comme une forme d'auto-socio-analyse.
Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez... c'est très fort comme rapport à un auteur qui pourtant, dont il ne fait pas un objet de pensée, mais dont il fait vraiment une sorte d'accompagnateur aussi aux points les plus difficiles de son travail et de son propre rapport à son travail.
Et puis là où ce que tu dis me semble d'autant plus corroboré par ce que tu dis sur l'absence d'ironie dans l'évocation de Proust montre aussi la révérence et qui fait partie de cette illusion, c'est-à-dire il fait partie de l'illusion qu'il décrit. Je sais pas jusqu'à quel point il avait confiance. Mais...
Ah oui.
Je sais pas si Jacques.
Oui.
Peut-être un petit mot pas tout à fait sympathique, mais je pense pas pour moi. Je suis à peu près de la même génération de Bourdieu, comme beaucoup plus âgé que moi, 3 ans. Et à une certaine époque, quand nous étions jeunes, moi, je ne sais pas, Proust est comme un écrivain de droite, et ses marquises, et ses duchesses, et ses Balbecs, quand même, il a fallu que nous fassions tout un effort, tout un chemin, comme Bourdieu savait en faire, pour entrer dans un autre Proust et voir qu'un Proust nous disait des choses. Mais jusque dans l'évidence du style, jusque dans l'après du style, je ne sais pas ce qu'il veut dire ici, là, mais je crois que c'était un écrivain de droite, vraiment, franchement, pas de son bord.
Donc il y avait une prudence et un chemin à faire pour qu'il entre dans la démarche.
Il s'est fait un peu lui-même, d'ailleurs. Hein, ça se remarque. Parce que, rapidement, c'est que, à propos de la remarque sur Kafka, par quoi vous terminez, en revanche, il y a une, pour lui, il y a une proximité de Proust qui est un peu encombrante. Il y a tant de choses qui auraient pu servir à Bourdieu, mais il me semble qu'il avait besoin d'une distance, d'un exotisme. Kafka, ça va, Faulkner, ça va. Proust, il est trop né dessus, il est trop français, il est trop. Je ne sais pas. Comment ?
Il y a Flaubert, il y a Ponge, il y a tout ça. Mais le mot de distance, il est important. Moi, je trouve qu'il y a un préjugé, disons, sur le style, dans le travail de Bourdieu, sur le style comme prise de distance. Prise de distance à l'égard d'autres styles, ou prise de distance même à l'égard du réel. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il veut voir chez Proust aussi. D'où la citation vraiment qui exemplifiait à perfection aussi ce que tu disais sur cet art infiniment marqué des distances. C'est une pensée singulière.
C'est la forme de la domination, en fait, hein, la distance à la nécessité. Hein, c'est toute la théorie de la distinction, c'est ça, d'afficher le détachement. Parce que sinon, le style pour Bourdieu, c'est le corps, enfin, c'est l'habitus. Hein, il n'y a rien de plus réel chez Bourdieu que le style.
Oui, mais comme prise de distance, justement, moi, ça me frappe beaucoup.
Non, parce le détachement, hein, comme il le dit pour la lecture de journaux, c'est la posture esthète par excellence. Donc c'est celle qui marque sa distance à la nécessité, à l'émotion. C'est comme la lecture lettrée qui doit afficher sa distance par rapport à la lecture supposée populaire de l'identification.
Et est-ce que tu sais comment il le lisait? Parce que par exemple, sur la photo, on se dit, mais il faut qu'il ait une sacrée familiarité avec lui pour qu'une citation quand même pas évidente de Proust viennent se proposer comme illustration première d'une idée un peu complexe. Moi, il y a juste sur la reproduction où je me dis, bon, ben là, il a été alerté par le verbe distinguer. Là, ça paraît un petit peu évident. Non,
là,
même pas.
C'est vraiment la phénoménologie.
Oui, mais je veux dire, le fait qu'il ait pu souligner, moi, je l'imagine soulignant. Et quelle pratique
il pouvait
avoir.
Je pense que c'est vraiment la...
C'est une familiarité. Tu sais pas.
Bon, j'imagine, il y avait quand même une équipe qui travaillait, donc j'imagine que de temps en temps, les gens arrivaient à j'ai vu ta citation, ou il y a peut-être ça aussi. Hein, qui joue, Et puis je ne sais pas à quel moment il le lit aussi. Donc,
On dirait qu'il le lit quand même un peu tout le temps. Hein.
Oui, ou alors qu'à un moment donné, il l'a lu, il a pris des notes, et sans, comme souvent on fait, sans trop savoir à quoi ça va servir, et puis quand tu rouvres ton cahier, donc,
Oui, quel effet te font ces occurrences à la proustienne en chef?
C'est gentil, mais il y a...
Attends, il n'y avait personne qui travaillait sur Proust autour avant que Jacques... Mais c'était ça, cette période-là, dans les années 60-70, dans l'équipe, il y avait Rémi Breton qui travaillait.
Il y a un sentiment qui le connaît très bien.
Enquête photographique, enfin, tout le monde travaillait à peu près sur cette période, Albin Gauthier, Christophe Charles aussi. Voilà, mais c'était un programme de recherche comment hein, qu'ils avaient élaboré autour de ce moment de la conquête de l'autonomie. Du coup, je ne vois pas très bien qui le disait. Il faudrait demander. Hein,
C'était Bourdieu, hein, c'était que lui.
À des gens de.
Et vous.
Non, c'est probable que c'est lui qui a repéré la. Mais bon, ça peut arriver aussi comme ça.
Moi, ce qui me frappe, c'est le côté incident de Proust, finalement. Dans tout... c'est beaucoup, parce que vous avez fait un énorme travail, hein.
Mais ce n'est pas énorme. Hein, parce que je n'ai pas vérifié tous les articles.
Oui, bien sûr, il y aura sans doute encore des choses, mais je veux dire, ce n'est pas énorme, finalement.
Non, c'est léger, mais c'est tout le temps.
Oui. Mais tu as entièrement raison, hein, et depuis le début, je dirais. Ouais. Sauf, comme tu dis, juste avant la mort. Mais ça me fait le même effet avec Foucault. Je me demande dans quelle mesure, et je rejoins Jacques, dans quelle mesure le fait qu'on ait taxé Proust d'écrivain de droite pendant longtemps, alors ça change évidemment dans les années 60 où il y a cette espèce de virage à gauche de la réception de Proust, mais... pour des raisons différentes, Bourdieu comme pour Foucault, il y a une espèce quand même de, sinon de point aveugle, du moins pour des gens qui connaissaient par cœur son œuvre, hein, parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, tout le monde lisait Proust, etc. Enfin, dans les années 60, il connaissait. Et donc, ce qui me frappe, c'est que Proust pourrait être mille fois plus présent sur la question de l'habitus, par exemple, c'est une évidence, sur la question des mondes sociaux, sur des seuils, etc. Et c'est exactement comme pour Foucault, là, ce que tu disais, là où on l'attend, chez Bourdieu, eh bien, finalement, il n'intervient pas. Alors, comme s'il y avait soit concurrence, soit la volonté de ne pas ancrer la sociologie, une sociologie de gauche, on va dire, dans un écrivain qui ne correspond pas tout à fait encore à... Je ne sais pas ce que tu en penses, ou c'est peut-être...
Je pense qu'il y a aussi des questions d'affinités d'habitus. Je pense que Flaubert,
il y
a plus d'affinités provinciales, il n'aime pas les mondanités parisiennes. Il a une forme de réalisme dans la description du monde. Enfin, je pense qu'il y a...
C'est en termes de valeur, en fait.
Des affinités électives, je suis d'accord avec ce que dit Jacques aussi. Et puis, je pense que Flaubert était l'autre auteur très lu à ce moment-là. Il y a même
Sartre.
Bien sûr, c'est ça qui le conduit.
C'est Sartre qui intervient 50 fois dans les...
C'est l'auteur épais d'un côté et l'auteur subtil de l'autre, entre guillemets. Et ça rejoint des positionnements politiques, finalement. hein, il me semble, avec Flaubert d'un côté et Proust de l'autre.
L'auteur
épée. Oui, non, mais épée, tu vois ce que je veux dire. Bah oui, Flaubert, on est dans le lourd, dans ce que Proust appelle le rouleau compresseur flaubertien, enfin, tu vois. Et alors qu'en réalité, Proust était fan de Flaubert, et que donc cette opposition n'a pas lieu d'être. Mais c'est une époque politique, et on pense avec les auteurs avec lesquels on a envie de penser, et avec lesquels c'est stratégique comme citation. Ah oui, mais alors là, on pourrait en parler, mais je crois que sinon, on va pas manger. Et si on commence sur Deleuze, entre le Proust deleuzien de 1964 et le Proust, on va le dire très rapidement, de la rencontre post-Gattari, je crois qu'il n'y a aucun rapport entre
Deleuze. Un livre sur Proust et un livre sur Kafka.
Tout à fait. Mais il ne fait pas un livre sur Proust, il fait trois livres sur Proust, 64, 70 et 76. Et l'Antilogos de 76, et le Proust et les signes, l'espèce de machinerie formaliste de 64, je crois qu'on n'est même plus dans le même... C'est même pas le même livre. Barbara, tu veux nous faire le mot de la fin, en trois mots? Parce que je crois que Barbara voulait absolument intervenir, donc... Mais elle m'a promis d'être...
Parce qu'il y a deux choses que je trouve très importantes en point de vue théorique sur la question de Bourdieu-Proust. La première, c'est comme avec la lecture de Pascal, il efface complètement la morale de l'histoire. C'est-à-dire qu'il utilise deux grands démystificateurs du social et il n'est pas touché, de toute manière, il ne prend pas en compte la question du salut et justement de la condamnation du social comme vanité qui fait la continuité de la tradition moraliste française avec l'opposition à l'aliénation, l'authenticité. Il reste la sociologie qui fonde toute la considération du monde social dans cette tradition. Et l'autre problème, c'est la raison, c'est pour répondre à la question que posait très justement Marielle, les problèmes que Bourdieu a parfois par rapport à l'expérience esthétique, c'est la justification qu'il fait entre expérience esthétique et esthétisme, qui lui vient de Durkheim, notamment de ces passages des règles de la division du travail social, là où Durkheim dit que l'expérience esthétique est une forme d'individualisme qui se passe du social et de la morale aussi, et qui est justement l'attitude de l'esthète, qui va contre, qui occulte la connaissance du social dans sa nature elle-même.
Il n'a pas vraiment besoin de Durkheim pour ça, parce qu'il travaille sur Cassagne, sur la théorie d'art pour l'art, et donc toute la question de la séparation de l'esthétique et de l'éthique, c'est central dans la constitution de l'autonomie du chemin de Tatar. Il en parle beaucoup dans les règlements, à propos en citant Cassagne. Donc il ne cite jamais Durkheim à ce propos. Moi, je n'ai jamais vu qu'il cite Durkheim à ce propos. Mais ce n'est pas négatif chez Bourdieu, cette lecture esthète. Hein. C'est pas...
c'est l'occultation du social pour lui.
Mais c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout négatif chez lui. C'est même problématique. On a l'impression qu'il souscrit complètement.
Ça, c'est ce qu'on verrait dans les textes sur la poésie, sans doute, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'une condamnation d'emblée.
Dans les règles de l'art, c'est comme
en comparant avec la tradition allemande, de l'école de Francfort, où les marxistes même n'ont pas eu jamais de mal, Lukács, à traiter avec ces sentiments parfois un peu de culpabilité, mais il y a quelque chose qui requiert justement un sacrifice. Je dirais qu'on a.
Il y a un écart entre la distinction et les travaux sur l'art, très très fort. Effectivement, dans la distinction, il y a la critique du jugement esthète.
Oui, la variante esthète de la pratique.
Aussi de la théorie ancienne, enfin, de ce qu'elle omet des conditions sociales de cette perception. Effectivement, dans les règles de l'art, où c'est clair que la lecture esthète, c'est le stade suprême de la lecture. Hein. Ça, c'est évident. Que ce soit aussi bien quand il lit Vos Poèmes de Faulkner ou quand il travaille, il fait peut-être sur la réception. Il est complètement dans l'idée sur ce point.
Bon. Ah ouais, il y en a des choses.
Ouais, on a mangé. On va bien continuer, mais on va d'abord.